Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, allons-nous nous adapter à ce que nous nous ajoutons ? On nous informe régulièrement que l'intelligence artificielle bat l'intelligence humaine dans certains secteurs ou certaines activités, tels les jeux d'échecs ou de go, le diagnostic médical ou la surveillance de processus complexes. En d'autres termes, le silicium écrase parfois, de plus en plus souvent d'ailleurs, le neurone. Mais en nous comparant ainsi aux machines, de tels discours ne sont-ils pas des sortes d'humiliation ? En 1956, le philosophe Günther Anders avait déjà qualifié de prométhéenne cette honte qui, je cite, « s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées ». Fin de citation. Il est vrai que les performances atteintes par certaines technologies laissent voir que nous ne sommes plus vraiment à leur hauteur. Dès lors, qu'allons-nous faire ? Serons-nous tentés d'abandonner notre idéal d'autonomie en déléguant une partie de nos choix à des machines toujours plus efficaces, capables de décider à notre place ? Ou bien allons-nous nous transformer en des êtres hybrides qui choisiraient de s'augmenter en intégrant au sein de leur corps et de leur cerveau des artefacts technologiques ou chimiques ? Ou bien allons-nous au contraire davantage cultiver notre humanité irréductible, c'est-à-dire tout ce qui nous différencie radicalement des machines ? Pour répondre à ces questions délicates, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Gaillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, directeur du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne et vous venez de publier un livre intitulé « L'homme augmenté » qui vient de paraître chez Grasset. C'est un livre passionnant, j'ai, je crois, 10 000 questions à vous poser, on n'aura pas le temps. Mais j'ai notamment appris en vous lisant qu'à chaque page que j'ai lue de votre livre, Raphaël Gaillard, j'ai perdu davantage de neurones que j'en ai gagné. Alors est-ce que c'est à cause des pages que j'ai lues ou est-ce que c'est à cause du temps que j'ai passé à les lire ?
Alors j'espère que ce ne sont pas les pages que vous avez lues. Non, je pense que c'est simplement le temps qui passe et la réalité c'est que même si nous fabriquons des nouveaux neurones, nous en fabriquons peu, nous en perdons beaucoup plus au cours du temps, dès 20 ans. Et par conséquent, à chaque page passée, du temps s'est écoulé et vous avez perdu davantage de neurones. Cela étant, utiliser votre cerveau réduit peut-être la vitesse de cette perte de neurones. Et nous avons l'habitude de dire en médecine que cet organe, le cerveau, est le seul qui ne s'use pas lorsque l'on s'en sert.
Ça veut dire que j'en ai moins perdu à vous lire que si je n'avais pas lu.
J'ai cet espoir.
Alors vous racontez des choses absolument passionnantes dans ce livre, Raphaël Gaillard, notamment votre expérience de jeune médecin, de jeune psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où vous avez traité un malade qui avait des crises d'épilepsie assez graves et vous l'avez guéri. Mais en le guérissant, vous l'avez privé de sa capacité à lire. Alors, comment est-ce qu'on arrive à décider quand un dilemme pareil se pose à vous ?
C'est un dilemme moral. Évidemment, c'est une décision complexe qui associe le patient lui-même avant tout et toute une équipe, neurochirurgiens, épileptologues, neurophysiologistes, qui concouraient à cette décision. En l'occurrence, ce patient souffrait d'une épilepsie qu'on qualifie de pharmacorésistante. Ça veut dire que elle ne répondait pas au traitement médicamenteux existant de l'épilepsie. Et il est perclus de crises d'épilepsie, y compris ce qu'on appelle des crises partielles complexes, c'est-à-dire des crises qui l'amenaient à perdre partiellement conscience. Il pouvait déambuler sans être lui-même conscient de ce qu'il faisait à ce moment-là, ce qui est extrêmement dangereux. Ceci plusieurs fois par semaine, voire par jour, donc se mettant en danger. Et le point de départ de ces crises d'épilepsie se situait à un endroit particulier de son cerveau, le cortex occipito-temporal gauche, qui est derrière l'oreille gauche, qui est crucial pour lire. Et donc le dilemme était le suivant, fallait-il tenter de le guérir de cette épilepsie en retirant ce point de départ de l'épilepsie par une intervention neurochirurgicale au prix de sa capacité à lire, ou bien conserver sa capacité à lire et considérer que nous ne pouvions pas soigner cette maladie épileptique.
Et comment est-ce qu'on vit quand on a été habitué à pouvoir lire et que soudain on ne peut plus le faire ?
Alors ça donne un syndrome très curieux qui s'intitule le syndrome d'alexie sans agraphie et qu'il est intéressant de décrire puisque dans ce syndrome, un patient perd la capacité de lire, mais pas la capacité d'écrire.
Mais il ne peut pas lire ce qu'il a écrit.
Exactement, c'est là qu'est le paradoxe. Le patient peut écrire, mais ne peut pas lire. Et il ne peut pas lire ce qu'il a écrit. Parce que les régions qui permettent d'écrire ne sont pas les régions qui permettent de lire. Et donc, dans la forme extrême, qui est rare du syndrome, on observe une alexie, donc une incapacité à lire, tout en conservant la capacité à écrire, donc sans agraphie.
Mais comment est-ce qu'on peut écrire ou qu'est-ce qu'on écrit quand on ne peut pas lire ce qu'on écrit ? Est-ce que ça a du sens ?
Ça a du sens, mais ça n'a pas de tenue, puisque l'enjeu n'est plus d'écrire une phrase à la façon de Proust sur plusieurs lignes, bien sûr. Et en l'occurrence, pour ce patient, pour que nos auditeurs comprennent l'enjeu, le choix qui a été fait par lui avant tout, d'ailleurs, hein, c'était de prendre le risque de perdre sa capacité de lire pour avoir la chance de guérir de cette épilepsie qui le mettait en danger. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, dans les suites immédiates de la chirurgie, il a perdu la capacité de lire, mais qu'il a en partie recouvré avec un léger déficit et en ayant gagné de fait un vrai contrôle de cette maladie épileptique.
Donc on peut dire, Raphaël Gaillard, que vous avez soigné un épileptique. Vous l'avez guéri de cette maladie-là, en tout cas ?
Alors, moi, personnellement, non. Mais cette équipe en charge de ce patient souffrant d'une épilepsie très grave a pu, de fait, considérablement l'aider.
Est-ce que vous connaissez l'anagramme de la pitié salpêtrière ?
Non, malheureusement, je suis très mauvais en anagramme.
Eh bien, ça donne « traitera l'épilepsie ».
C'est génial.
Alors, est-ce qu'on peut considérer à partir de cet exemple que vous venez de nous donner, à savoir que en retirant un bout de cerveau, c'est une opération d'extraction d'un morceau du cerveau, est-ce qu'on peut en déduire que l'homme est fait de bouts de cerveau ? C'est-à-dire que le cerveau, c'est une sorte de milieu, d'organe qui n'est pas du tout homogène, qui est compartimenté, et c'est l'ajout des fonctions attribuées à chaque compartiment qui fait ce qu'on appelle l'intelligence.
C'est important de considérer que cet organe très complexe qu'est le cerveau, qui est probablement le plus complexe, avec son 1,4 kg de chair, ses 85 milliards de neurones qui établissent chacun 1000 à 10 000 connexions, donc 1 million de milliards de connexions, il est organisé de façon distribuée, c'est-à-dire avec une spécialisation anatomique. Certaines régions servent à telle fonction, tandis que telle autre serve à telle autre fonction. Ainsi, je vous ai décrit le fait que nous pouvons perdre la capacité de lire sans perdre la capacité d'écrire, mais vous savez qu'un accident vasculaire cérébral peut vous faire perdre la motricité de la partie gauche du corps et pas de la partie droite, ou telle capacité d'expression, donc le langage. Le cerveau est effectivement organisé comme une série de processeurs, comme une série de calculateurs qui sont agrégés ensemble et dont émerge l'ensemble des capacités cognitives et, de fait, la vie psychique.
Votre livre s'intitule, Raphaël Gaillard, « L'homme augmenté ». Mais si je tiens compte de ce que vous venez d'expliquer, il peut pas être augmenté de façon universelle et homogène. On augmente une capacité particulière qui correspond à telle zone du cerveau, sans être forcément capable d'augmenter les capacités de toutes les autres zones.
Alors vous allez d'emblée à un point qui est très important, parce qu'autant dans ce livre, j'ai voulu décrire la réalité de l'augmentation de l'homme et montrer qu'il ne s'agissait vraiment plus de science-fiction, mais d'une réalité du soin et de perspectives menées par un certain nombre pour l'augmentation de l'homme, par des interfaces cerveau-machine, autant persiste une idée qui est très présente dans la science-fiction, qui est celle de l'augmentation globale du cerveau. Or, comme vous l'avez rappelé, le cerveau, il est organisé de façon distribuée, de sorte que si vous mettez en place un implant à tel endroit du cerveau, la fonction que vous allez réparer ou augmenter, c'est telle fonction en lien direct avec l'implant. De sorte que ce que vous pouvez augmenter, c'est une fonction, peut-être deux, trois fonctions, en fonction du nombre d'implants, et pas l'ensemble des capacités d'un cerveau. Pour le dire autrement, notre cerveau n'a pas de port USB qui permette d'accéder à l'ensemble du système cerveau, et donc à le mettre à jour, l'augmenter globalement. Et ça, ça reste une idée de l'ordre de la science-fiction.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer mettre des implants dans toutes les zones, finalement?
Même
de faire ce que vous avez fait localement, de façon plus globale.
Même comme ça, ce serait multidimensionnel, mais je pense que ça passe par une étape qui consiste à faire perdre l'harmonie de l'homme. Nous avons une représentation de l'homme qui est celle typiquement de la Renaissance, celle de l'homme de Vitruve, de Vinci, contenu dans ce cercle et avec cette idée qu'une forme d'harmonie prévaut. Et quand on élève un enfant, par exemple, on s'attache à ce que ses facultés soient harmonieuses, à ce qu'il soit pas seulement bon en maths, mais aussi avec une certaine culture en histoire. Eh bien, le processus d'augmentation par ces interfaces cerveau-machine vient par définition rompre cette perspective d'harmonie parce que il commencera par augmenter une ou quelques fonctions sans toucher aux autres, voire aux dépens des autres.
Alors vous êtes, Raphaël Gaillard, vous êtes médecin, psychiatre, mais vous êtes aussi chercheur. Vous collaborez avec des spécialités très très différentes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous, vos collègues, avez compris le langage? Comment ça se passe le langage? Comment le cerveau humain s'organise pour faire de la syntaxe? Comment le sens d'un mot émerge? Est-ce que tout ce processus vous est devenu intelligible grâce à vos recherches?
Et est-ce qu'on peut en parler par le langage et donc mettre en abîme l'ensemble en mettant en mots notre compréhension de la façon dont le cerveau permet d'utiliser les mots? Alors, je crois qu'on sait beaucoup de choses aujourd'hui. Et cette mécanique du langage, dans ses différentes étapes, dans ses différentes modalités aussi, c'est pas la même chose d'entendre et de voir, donc d'entendre et de lire, c'est pas la même chose que d'annonner et de comprendre, donc il faut s'intéresser à chaque chose. Vous parlez de l'arbre syntaxique, par
c'est
exemple.
Pas c'est pas même chose de lire à voix haute et de lire tout court, enfin, en
oui,
silence.
Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a, en fait, le langage lui-même est un univers, d'une façon générale, on le sait, mais dans le cerveau. C'est de multiples continents. Et nous en connaissons un certain nombre, nous connaissons certaines des interactions entre ces continents, mais pas tous encore. Et d'ailleurs, puisque vous faites référence aux chercheurs chez moi, ce qui me passionne dans mon exercice, c'est que cet organe fascinant qu'est le cerveau, nous n'en avons pas tout compris encore. C'est-à-dire qu'il y a énormément encore à déchiffrer. Et ça, c'est une aventure qui est absolument passionnante.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'autoréférence? C'est-à-dire, est-ce que le cerveau est capable de se comprendre lui-même?
C'est la mise en abîme dont je parlais à l'instant. Je pense pas qu'elle pose de problème fondamental. Bien sûr que c'est de l'autoréférence, mais on peut s'autoriser cette démarche de soi sur soi.
Il y a une phrase dans votre livre qui m'a intrigué, Raphaël Gaillard. Vous dites à propos de la recherche, des recherches que vous menez, il faudrait rendre compte de ce que la recherche doit à Don Quichotte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, je pense que on décrit trop souvent les chercheurs comme des êtres doués d'une seule raison. Or, les chercheurs sont animés par une foi dans leurs travaux qui a volontiers quelque chose d'irrationnel. Ils sont portés par quelque chose qui les pousse vers leur découverte. Ils expérimentent, ils s'aventurent. J'aime le mot de Boris Vian, des s'aventuriers. Il faut cette foi pour inventer et pas la seule raison, parce que la seule raison, dans mon expérience d'ailleurs, avec les étudiants, ceux qui se contentent de l'intelligence de l'optimisation ne font qu'optimiser, mais n'inventent pas.
Ça me fait penser à cette phrase de Gaston Bachelard, qui a écrit quelque part « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez ».
Exactement, et il faut qu'il y ait ce débordement en fait. Il s'agit bien de ce débordement, et sans ce débordement, je crois qu'il n'y a pas de créativité, parce que l'enjeu est un enjeu de créativité dans le champ de la démarche scientifique. Si on n'a pas cette façon d'aller bien au-delà de ce qui existe déjà, puisqu'il s'agit de découvrir, eh bien, on n'invente pas, on se contente d'améliorer ce qui existe.
Vous avez bien connu, Raphaël Gaillard, non pas Germaine, mais Gertrude. Qui était Gertrude? Et d'où vient que la recherche en médecine avance, dites-vous, à pas de cochon?
C'est la question de l'expérimentation chez l'animal. Donc Gertrude est une truie resplendissante qui a été présentée aux médias par ce fantasque entrepreneur qu'est Elon Musk. Elon Musk a créé en 2016 une entreprise qui s'appelle Neuralink. Et Neuralink a pour ambition d'augmenter l'homme par des implants dans le cerveau, des interfaces cerveau-machine. Et la première fois qu'il a montré l'efficacité de ce type d'implant, c'était mise en scène à la Elon Musk. Il n'était pas encore propriétaire de Twitter devenu X depuis, mais on attendait que l'écran apparaisse et il a révélé Gertrude, la truie qui était implantée et dont on entendait, c'était très étonnant, le crépitement des neurones, qui était une sorte de musique à la Stockhausen en direct, comme ça, donc de Gertrude, la truie émergée du Stockhausen, diffusée depuis la Silicon Valley par Elon Musk.
Est-ce que ça veut dire entendre de la pensée? Est-ce que l'activité cérébrale correspond toujours à ce qui est souvent décrit comme une forme de pensée, ou est-ce que ça peut être tout à fait autre chose?
Je dirais plutôt dans l'autre sens que je me refuse au dualisme. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer de pensée qui ne soit pas celle du cerveau. Et partant de là, eh bien, je vais chercher dans telle ou telle activité du cerveau ce qui pourrait sous-tendre les pensées.
Alors, votre livre s'appelle « L'homme augmenté ». Mais vous parlez beaucoup aussi, et d'ailleurs l'exemple que vous avez donné tout à l'heure l'illustre bien, de la réparation. Et vous montrez que la séparation entre la réparation et l'augmentation, elle est finalement difficile à définir, parce que c'est en réparant qu'on apprend à augmenter.
Exactement, et même je dirais que dans l'exercice quotidien de la médecine, c'est difficile d'établir la frontière entre la réparation et l'augmentation. On ne sait jamais finalement si on s'est contenté de réparer, c'est-à-dire de restaurer l'état antérieur à la maladie, ou si on a fait davantage. Je donne l'exemple, en dehors du cerveau, de la transplantation cardiaque, et je prends cet exemple chez un auteur qui est Maëlys de Kerangal, dans Réparer les vivants, un très beau livre, quand elle raconte la façon dont Claire, à 51 ans, bénéficie du cœur de Simon, un adolescent qui est mort tragiquement d'un accident de surf. Voilà donc Claire, la cinquantaine, qui a littéralement un cœur de jeune homme. Évidemment que sa fonction cardiaque est bien meilleure que quand elle souffrait d'une insuffisance cardiaque, mais il faut aussi dire que littéralement, cette femme de 50 ans a un cœur de jeune homme. Et donc on peut se poser la question d'une forme d'augmentation obtenue ici dans le seul but de réparer la maladie cardiaque de Claire.
Et qu'est-ce que ça fait psychiquement d'avoir un cœur de jeune homme quand on est plus âgé, quand on est une femme et que c'est un cœur masculin? Même si la notion de sexe pour les cœurs est sans doute mal définie, mais est-ce que ça change la psyché?
Le livre est très beau et je pense que j'invite les lecteurs à s'y plonger. Et d'une façon générale, comme vous le savez, je pense que la littérature nous inspire beaucoup.
En tout cas, c'est votre cas, puisque votre livre, c'est ce qui m'a le plus plu en le lisant. Il est truffé de références littéraires.
Je pense que la littérature est essentielle et je pense même qu'il n'y a pas de bon psychiatre qui ne soit bon lecteur. Et donc, je pense qu'il faut aller, il faut passer par la littérature. Donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir un autre cœur que le sien? Ça fait beaucoup de choses. Et c'est utile de penser à la place d'un autre. C'est ça que permet la littérature. C'est de se mettre à la place d'un autre pour penser comme lui et se représenter ce que ça fait de penser comme un autre, de penser ce qu'est la trajectoire tragique de Simon et la façon dont ses parents vivent la disparition d'un enfant, le deuil le plus terrible qui soit, celui de perdre un enfant, et de penser ce que cela fait d'avoir un autre cœur que le sien.
Est-ce que vous, les psychiatres et les chercheurs en psychiatrie comme vous, vous vous posez des questions qui ressemblent à celles des physiciens, c'est-à-dire des questions de type contrefactuel? Qu'est-ce qui se passerait si... Qu'est-ce qui se passerait si on laissait tomber les corps dans le vide? Qu'est-ce qui se passerait si on était à cheval sur un rayon lumineux? Est-ce que chez vous, ça donne des questions du type qu'est-ce qui se passerait si on enlevait ce bout de cerveau ou si on mettait un implant à cet autre endroit, etc.?
Oui, je pense que la démarche contrefactuelle, elle est fondatrice pour la science de toute façon. Donc, bien sûr qu'on l'applique. Maintenant, je ne crois pas que nous ayons la puissance, puis c'est le terme souvent utilisé par les étudiants, des physiciens pour se poser ces questions. Et donc, on le fait probablement plus modestement que les physiciens le font. Mais bien sûr que cette démarche contrefactuelle est essentielle à l'avancée de la science.
Quand on répare un amputé, quand on lui donne un bras bionique ou artificiel, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Comment est-ce qu'il arrive à ressentir au travers de quelque chose qui ne lui appartient plus, enfin qui ne vient plus de lui?
Ça, c'est un point très important et qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau recalcule en permanence ses coordonnées. Il a cette faculté...
Il a un GPS de lui-même.
Oui, un GPS de lui-même, mais qui est dynamique, qui va établir ses propres limites, et notamment les limites du corps, de façon très dynamique. De sorte qu'il a la capacité à intégrer cet organe, ou en l'occurrence cette prothèse, ce bras, pour peu que ce bras lui donne des sensations. C'est-à-dire, si vous lui donnez des sensations, eh bien très rapidement, il va l'intégrer. Et d'ailleurs, à vrai dire, s'il ne donne pas de sensations, mais que par ce bras, vous pouvez interagir sur le monde, alors rapidement, vous allez intégrer dans votre représentation de votre espace vital, de ce qu'est votre corps, ce bras comme faisant partie de vous. Et je vais te donner un exemple parlant, qui est celui d'une voiture. Si vous conduisez votre voiture tous les jours, eh bien, petit à petit, votre schéma corporel va intégrer cette voiture. Votre aile gauche, votre épaule gauche, un peu de choses près, de telle sorte d'ailleurs que si on abîme votre carrosserie, ça vous fait quasiment mal, comme si on vous touchait votre épaule gauche. En tout cas, vous avez intégré ces repères spatiaux comme si cette voiture était devenue quelque chose qui est aux dimensions de votre corps, simplement par le fait que, par cet objet, vous interagissez avec le monde.
Raphaël Gaillard, si je comprends bien, notre cerveau est capable de se recalculer, comme vous dites, c'est-à-dire d'intégrer la présence d'un nouveau membre, bionique ou artificiel, qui ne lui appartenait pas initialement. Mais d'où vient que quand on perd un membre, on peut continuer d'avoir mal à l'endroit où il se trouvait sans qu'il était remplacé?
Alors le cerveau passe son temps à recalculer ses coordonnées et vous avez la possibilité, si vous interagissez par une prothèse avec le monde, de l'intégrer à votre schéma corporel, un peu comme le conducteur d'une voiture qui va petit à petit, à force d'interagir avec le monde, c'est-à-dire de conduire dans les rues, avoir l'impression que son schéma corporel comprend cette voiture et avoir bien intégré les dimensions de cette voiture. Et ce calcul, parfois, il est pris en défaut. Et il est pris en défaut notamment quand ce membre vient à être supprimé, c'est-à-dire lors d'une amputation. Et quand cette amputation survient, eh bien chez bon nombre de patients, le cerveau ne comprend pas que l'amputation a eu lieu et il va générer des signaux depuis ce membre qui n'existe plus. Et ces signaux sont des signaux douloureux. Et comme ce sont des signaux douloureux émanant de quelque chose qui n'existe pas, eh bien, nos traitements anti-douleur n'ont pas d'effet. Et donc, ce sont des douleurs terribles que nous n'arrivons pas à soigner parce qu'ils émanent d'un faux calcul du cerveau qui attribue à quelque chose qui n'existe pas, le membre fantôme, une douleur. Et donc, c'est une gageure que d'arriver à soigner un membre fantôme.
Est-ce que, Raphaël Gaillard, on peut comparer au moins pour certaines fonctions, le cerveau et l'ordinateur? Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les distingue? Vous donnez des chiffres, notamment sur la puissance que consomme le cerveau. Le cerveau, si j'ai bien compris, c'est à peu près 2% de notre poids corporel. Par contre, c'est 30% de la puissance que notre corps utilise pour son métabolisme. D'où vient qu'il consomme autant d'énergie? Et d'où vient qu'il en consomme beaucoup moins que les machines qui le battent? Je disais dans mon introduction, le silicium bat le neurone. Mais quand on compare les puissances, c'est pas vrai. Un joueur d'échecs qui est battu par une machine capable de jouer mieux que lui, lui dépense 30 watts avec son cerveau, alors que la machine est éduquée avec une puissance beaucoup plus importante.
Oui, et c'est très important. Je pense que ce principe de parcimonie, il est spectaculaire. C'est-à-dire que pour situer les choses, donc ce 1,4 kg de chair, c'est effectivement 2% de notre masse corporelle, consomme 20-30% de notre énergie, ce qui est énorme, hein, ce qui, on y reviendra, j'imagine, veut dire que nous avons, au cours de l'évolution, choisi de privilégier cet organe pour qu'il soit l'objet de toutes nos attentions.
Bah, les alpinistes savent bien que quand ils ont froid aux mains, il faut mettre un bonnet.
Et voilà, c'est un élément essentiel de la régulation thermique, peut-être, mais au-delà de la régulation thermique, en fait, c'est là que tout se passe, notre cerveau, et donc ça consomme énormément d'énergie. Mais cette quantité d'énergie reste très faible, puisque comme vous l'avez dit...
C'est la puissance d'une petite ampoule.
Bah 20 watts, c'est rien, tandis que un supercalculateur, mais le physicien que vous êtes pourra en dire davantage, qui fait des exaflops, donc un milliard de d'opérations par seconde, va consommer, lui, ce qui doit être à peu près l'équivalent de ce que fait le cerveau, va consommer 20 mégawatts, donc un million de fois plus d'énergie. Et donc vous voyez que, bien sûr que se pose la question de la comparaison cerveau-machine, cerveau-ordinateur en termes de puissance. Mais il faut la poser aussi en termes de puissance énergétique, c'est-à-dire de coût énergétique. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que le physicien en dit, mais moi je constate que notre cerveau consomme 20 watts quand le supercalculateur en consomme 20 mégawatts.
Ça pose la question de la durabilité de l'IA. Est-ce qu'on aura l'énergie capable de l'alimenter pendant des décennies et des décennies?
J'imagine que c'est une question qui va se poser.
Est-ce que... On peut augmenter sa mémoire, c'est une chose que vous discutez dans votre ouvrage, Raphaël Gaillard. Est-ce que on peut l'augmenter de façon efficace, spectaculaire? Et quel genre de mémoire on augmente quand on est capable de le faire?
Alors, de même qu'il existe plusieurs parties du langage, eh bien, il existe plusieurs mémoires. Et donc, c'est important aussi de penser qu'il n'y a pas une seule forme de mémoire, mais plusieurs formes de mémoire. Aujourd'hui, d'un point de vue pharmacologique, on a peu de ressources pour augmenter la mémoire. Du point de vue de la stimulation cérébrale et des processus de stimulation cérébrale, certaines expériences sont tentées, notamment de stimulation cérébrale profonde, des hippocampes. Les hippocampes, c'est en quelque sorte les grands échangeurs pour la mémoire dans le cerveau, un peu comme les hubs d'une autoroute ou du trafic aérien qui permettent de répartir les informations et d'encoder les informations. C'est eux qui sont atteints, notamment dans la maladie d'Alzheimer, typiquement, et qu'on essaierait de stimuler. Aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose par ces techniques de stimulation cérébrale profonde. On essaye de faire également par des techniques de stimulation plus superficielles, avec des techniques non invasives qui améliorent une forme plus restreinte de mémoire qui est la mémoire de travail. Donc c'est celle qui vous permet de retenir un numéro de téléphone, ça sert plus à grand chose, le temps de le composer, mais en fait si la mémoire de travail vous permet de travailler justement et de faire beaucoup de choses, et donc en synchronisant des stimulations électriques avec les ondes cérébrales, on sait augmenter la mémoire de travail. Donc, il y a des petites choses qu'on commence à faire, et je pense qu'on saura faire davantage, mais on n'en est qu'au tout début.
Est-ce que on a des moyens de comprendre, Raphaël Gaillard, ce qui distingue la douleur physique de la douleur psychique? Qu'est-ce qui les rend si différentes, en fait? Parce qu'elles ne se ressemblent pas, même si vous dites, une phrase qui m'a beaucoup intéressé, vous dites parfois la douleur physique fait office de paratonnerre pour la douleur psychique. Oui. Par exemple, vous parlez du deuil, mais aussi des ruptures amoureuses.
Oui, et puis de certains patients qui, dans une situation de grande souffrance psychique, vont se faire du mal physiquement et ressentir un soulagement par l'expérience de cette douleur physique, notamment par des scarifications, et avec le vécu, en tout cas c'est le récit qu'ils en font, que au moment où apparaît cette douleur physique, eh bien, elle condense en quelque sorte tout le mal-être qui vient se placer là, dans cette coupure sur la peau, et qui vient les soulager de ce qui était jusque-là non représenté, irreprésentable, peut-être incommensurable, qui était la souffrance psychique. Cela étant, il y a une différence entre souffrance psychique et souffrance physique, douleur psychique et douleur physique, mais il y a aussi beaucoup de points communs, et il faut souligner notamment que la douleur psychique active dans le cerveau les mêmes circuits que la douleur physique. Et c'est très intéressant de constater, parce que ça ouvre peut-être des pistes aussi thérapeutiques, que les circuits de la douleur physique sont ceux qui sous-tendent dans le cerveau la douleur psychique.
Est-ce que vous comprenez le sens de cette phrase que un écrivain que vous connaissez, Murakami, a écrite? Murakami fait ou faisait des courses de 100 km. Et il raconte l'expérience de ces courses qu'il a faites à plusieurs reprises. Et il dit ceci: la douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de convertir une douleur physique, qui est localisée, en une souffrance psychique globale qui coloniserait tout le corps.
C'est, je pense, très intéressant. Encore une fois, vous voyez que la littérature nous éclaire. Pas d'ailleurs pour donner des réponses. Hein. Je voudrais pas dire que les réponses sont dans les livres. Je voudrais dire que les questions sont dans les livres. D'ailleurs, c'est un point commun que les psychiatres ont avec les rabbins, c'est qu'ils répondent généralement aux questions par des questions. Et donc, ils s'intéressent davantage aux questions. Je vais essayer quand même de répondre à vos questions.
Oui, vous allez y venir forcément.
Donc, en l'occurrence, ça suscite chez moi plein de questions que j'aimerais poser à Murakami.
Non, parce que les coureurs de fond, les trailers, etc., ils ne disent pas « j'ai mal au genou ». Ils disent « mon genou a mal ». Parce que ça circonscrit la douleur, ça la localise. Et quand on dit « j'ai mal au genou », c'est tout l'être qui est envahi par la douleur.
Et
ça donne envie d'abandonner. Alors que si on dit « mon genou a mal », bah c'est lui, ça ne me concerne pas. Et on peut faire quelques kilomètres de plus jusqu'à ce qu'il fasse vraiment mal. Alors, il y a beaucoup de choses que vous traitez, notamment sur les excitants. Est-ce que les excitants peuvent être considérés comme des choses qui nous augmentent? Est-ce que le café nous augmente? Si oui, quoi? Est-ce que le thé nous augmente? Si oui, quoi?
Ah oui, moi,
est-ce que le chocolat nous augmente? Si oui, quoi?
Oui, oui, bien sûr. Je pense que les excitants qu'on appelle de différentes façons, parfois on dit les substances ergogènes, c'est-à-dire qui aident à travailler, les eugrégoriques, c'est-à-dire les éveillants, toutes ces substances ont la propriété de nous augmenter, par exemple en nous maintenant éveillés, là où nous pourrions nous assoupir, en augmentant légèrement nos capacités attentionnelles, en augmentant notre vivacité, c'est en diminuant notre temps de réaction, et bien sûr qu'elles ont cette propriété. Tout le monde a fait l'expérience de ce que le café ou le thé ou peut-être la nicotine peut apporter, en sachant que certaines de ces substances sont également toxiques.
Raphaël Gaillard, vous citez ce livre incroyable de Balzac, qui s'intitule « Traité des excitants modernes », dans lequel il raconte l'agonie de trois condamnés à mort, dont la sentence consiste à ce qu'ils ne vivent plus respectivement que de chocolat, de thé et de café. Ils sont condamnés à ne boire que l'un de ces trois breuvages. Le premier, qui est condamné au chocolat, meurt en 8 mois, dans un effroyable état de pourriture, dit Balzac, dévoré par les vers. Ses membres sont tombés un à un, comme ceux de la monarchie espagnole. Celui qui est condamné au thé a une mort quasi diaphane. Il meurt à l'état de lanterne. Quant à celui qui est condamné au café, eh bien, il rend les armes en 2 ans. Il meurt brûlé, comme si le feu de Gomorre l'eût calciné. Est-ce que c'est fidèle à ce qu'on sait aujourd'hui de ces breuvages ?
On n'expérimente pas la condamnation,
l'allégorie
de Balzac, mais oui, c'est tout à fait fidèle que ce traité des excitants modernes, et puis surtout ce texte est absolument magnifique, on y reconnaît le grand Balzac, on imagine tout à fait d'ailleurs le Balzac abusant probablement du café en l'occurrence.
C'est pas un ascète.
Loin de là, et on voit ce qu'il décrit de ces torrents d'eau noire, dans la consommation de café, la façon dont l'artillerie de la logique accourt avec son train et ses gargousses. Le texte est magnifique et donc on le trouve sur Internet, donc j'invite les auditeurs à le lire.
Traité des excitants modernes. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une idée ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a conscience d'avoir une idée ? Est-ce que ça se repère ? Est-ce que ça se définit ? Est-ce que ça s'étudie ?
Alors, je me zarderai pas à l'idée, mais plutôt à la question de la conscience. Ce qu'on sait de la conscience, c'est que au moment où on a conscience de quelque chose, se produit dans le cerveau un état de synchronisation de zones cérébrales distantes qui jusque-là fonctionnaient de façon indépendante et non synchronisée. Et un certain nombre d'entre nous, au premier chef d'entre elles, Stanislas Dehaene, pensent que l'accès à la conscience correspond à ce moment de synchronisation à longue distance, au travers du cerveau, de modules cérébraux distants qui, à ce moment-là, sont coordonnés sur ce qu'il appelle un espace de travail global conscient. Et c'était le thème de ma thèse de science sous la direction de Stanislas Dehaene et Lionel Nakache, donc c'est un sujet qui me passionne, que de comprendre ce qu'il est possible de faire non consciemment, donc en amont de la conscience, et ce qu'il se passe lorsque nous devenons conscients. On utilise même le mot d'ignition, c'est-à-dire qu'il se, vraiment quelque chose change de façon non linéaire à ce moment-là, dans l'accès à la conscience et dans l'activation d'un réseau global à l'échelle du cerveau.
Mais est-ce qu'il y a des conditions propices pour que de tels phénomènes se produisent consciemment ? Vous citez l'exemple d'Edison qui, paraît-il, faisait des siestes l'après-midi. Mais avant de s'endormir, il avait des boules dans les mains qui tombaient par terre lorsqu'il s'endormait, de sorte que ça le réveillait. Et si une idée avait la bonne idée, si j'ose dire, de passer par là, il lui restait suffisamment de conscience pour la saisir. Vous parlez d'Einstein aussi, qui racontera à la fin de sa vie qu'il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie en 1907. En rentrant de déjeuner, il fait une sieste semi-éveillée et il comprend qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids, ce qui va le mener à une nouvelle théorie de la gravitation. Et ça, c'est ce que vous appelez des moments de twilight, c'est-à-dire on n'est pas complètement éveillé et pas complètement endormi. Est-ce que là, il se passe des choses, du point de vue cérébral, qui sont favorables à l'apparition d'idées ?
Alors ce moment-là, qu'on peut appeler twilight ou crépuscule, ces moments entre chien et loup de la conscience sont très intéressants. Et vous avez décrit vous-même ce texte d'Einstein.
J'ai cité Einstein.
Et moi j'adore le récit aussi de d'Edison, qui est un génial inventeur avec ses boules qui tombent et qui le maintiennent donc au seuil de l'endormissement, c'est ça l'idée. Et ce qui a été objectivé par une équipe de la Salpêtrière d'ailleurs récemment menée par Delphine Oudiette, c'est que c'est vrai, c'est-à-dire que les personnes qui entrent dans ce demi-sommeil ont une probabilité plus élevée de résoudre des problèmes mathématiques. Et pour ça, le dispositif expérimental est très simple. On leur présente des problèmes de maths assez simples, mais qui sont de ces problèmes qui sont résolus si vous avez le truc. Trouvez, vous avez le truc.
Il y a un truc à trouver.
Oui, et donc on leur présente les problèmes, et puis on leur permet de faire une sieste en enregistrant leur activité cérébrale. Et on constate que ceux qui rentrent dans ce demi-sommeil multiplient par deux ou trois la probabilité de résolution de ces problèmes, alors que ceux qui vont jusqu'au vrai sommeil, la sieste pleine et entière, n'augmentent pas du tout leur chance de résoudre le problème.
Ni l'insomnie.
Ni l'insomnie. C'est-à-dire, si vous continuez à y travailler, à y réfléchir comme ça... Non. Et donc, oui, il y a quelque chose autour de la créativité et de ce twilight, ce demi-sommeil.
Il y a une autre circonstance que vous connaissez sûrement, Raphaël Gaillard, c'est Henri Poincaré, qui travaille des mois et des mois sur un problème, celui des fonctions fuchsiennes, il n'y arrive pas. Il se met à boire du café, ça l'empêche de dormir. Et puis, il accepte de faire une excursion avec des collègues de l'école des mines à Coutances. Et c'est en mettant le pied sur le marchepied de l'omnibus, alors qu'il est en discussion avec un collègue, que, indépendamment de ce qu'il est en train de discuter, la solution apparaît dans son cerveau. Il en est tellement certain qu'il n'interrompt pas la conversation et vérifie la chose le soir, rentré chez lui, pour l'acquis de sa conscience.
Oui, mais je connaissais pas, et merci pour cette anecdote.
Il a expliqué ça en 1911, je crois, devant la Société de Psychologie de Paris.
Ouais. Mais vous voyez, encore une fois, la science procède pas par la seule raison. Il lui faut des subterfuges, il lui faut parfois même un peu de déraison pour qu'elle avance. Et c'est ça qui est passionnant. Et je m'imagine très bien la façon dont on peut, en étant pris par autre chose, parfois même dans une double tâche, en train de faire avancer une question, alors qu'il consacrait toute son attention, eh bien, finalement, n'est pas du tout propice à la résolution de la question.
Dans votre livre, Raphaël Gaillard, vous parlez des ravages de l'insomnie. En France, l'insomnie augmente. Le temps de sommeil n'est pas suffisant, ce qui a des effets psychiques que vous décrivez. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase d'Einstein, on va reparler de lui, il a écrit un jour « Je dors pas beaucoup, mais je dors vite ».
Elle est géniale, cette phrase.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Elle est géniale, cette phrase. Alors, pour ce qui est de l'insomnie, d'abord, ça semble être en passe de devenir la maladie du siècle, parce qu'effectivement, on dort de moins en moins. Et cette privation de sommeil, non seulement on s'en plaint, mais elle a toutes sortes d'effets sur la santé, au-delà de la santé mentale d'ailleurs, mais notamment sur la santé mentale. Ensuite, certains ont la chance, vous le savez, d'avoir un sommeil qui quantitativement n'est pas important, mais qualitativement est ultra efficace, c'est-à-dire extrêmement réparateur, quand d'autres au contraire dorment beaucoup, mais ont un sommeil qui n'est pas réparateur. Mes patients souffrant de dépression, par exemple, pour certains, ont une hypersomnie, c'est-à-dire dorment davantage, et certains patients ont ce symptôme, mais ce sommeil n'est pas réparateur. Donc il y a une qualité différente du sommeil, et donc Einstein, manifestement, avait la chance d'avoir un sommeil particulièrement réparateur.
Il y a une phrase que vous répétez à plusieurs reprises dans votre livre, vous dites « notre cerveau ne se supporte plus ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et en admettant qu'on puisse l'augmenter, avec les différents moyens que vous décrivez, est-ce qu'il se supporterait davantage ou est-ce qu'au contraire, il se supporterait encore moins?
Ça, c'est une idée clé de mon propos qui consiste à dire que cet organe dont j'ai dit à quel point il me fascinait, il a quand même des défauts. Et ces défauts, on peut les résumer ainsi, c'est que au travers de l'évolution, nous avons fait le choix de la complexité, de la puissance du cerveau, en renonçant à la robustesse. Si on compare la façon dont on code l'information chez un singe versus la façon dont on code l'information chez l'Homo sapiens, eh bien on constate que chez le singe, c'est moins complexe mais c'est plus robuste. Chez l'homme, c'est plus complexe mais c'est moins robuste. Et si c'est moins robuste, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien il peut y avoir des ratés. peut y avoir des bugs. Et ces bugs, c'est ce dont nous faisons l'expérience sous la forme des troubles mentaux. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre pourquoi ces troubles mentaux sont si fréquents. Moi, tous les matins, je me demande pourquoi sont aussi nombreux les patients que nous avons à soigner. Le pôle dont je suis responsable reçoit 12 000 patients par an, ce qui est rien à côté de la réalité des troubles mentaux. La schizophrénie, pour citer que celle-là, cette maladie, c'est 1% de la population générale et c'est pareil sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. L'une des explications avancées, c'est qu'en fait, c'est le prix à payer de la puissance du cerveau. C'est-à-dire que...
C'est comme une Formule 1, c'est pas un tracteur.
C'est tellement perfectionné que ça peut connaître des bugs et nous faisons l'expérience collectivement du fait que notre cerveau ne se supporte plus parce qu'il a été poussé à l'extrême dans sa puissance. Et donc, pour répondre à votre question, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si notre cerveau a été poussé à l'extrême au travers de l'évolution pour consommer autant de notre énergie, on l'a dit tout à l'heure, et au point d'avoir des bugs, ce qui correspondrait à la réalité terrible des troubles mentaux, eh bien, si on l'augmente encore, ce prix à payer des troubles mentaux va encore augmenter. Et donc, je m'attends, en tout cas c'est l'hypothèse que je formule, à ce que l'augmentation du cerveau s'accompagne d'une augmentation de la fréquence des troubles mentaux.
Mais ça veut dire que les bugs dont vous parlez sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils n'étaient dans le passé? Et en quoi la technologie dont nous parlons, l'IA par exemple, a-t-elle un effet sur ces bugs?
Alors ça, pour le j'essaye toujours en scientifique de différencier ce qui relève de la démonstration et ce qui relève de l'hypothèse. Là, j'ai formulé une hypothèse, celle de l'augmentation à venir des troubles mentaux. Est-ce que nous avons une démonstration des éléments qui puissent en rendre compte ou au contraire le réfuter? En fait, c'est très difficile parce qu'il faudrait que nous ayons une mesure des troubles mentaux au travers de plusieurs siècles. Or, nous n'avons pas ces registres, et puis en plus, d'ailleurs, la définition même des troubles mentaux a évolué au travers des siècles. Donc on n'a que des signaux qui sont de qualité discutable sur quelques années, voire dizaines d'années. Donc ça n'a pas énormément de valeur. Cela étant, ces signaux, à mes yeux, sont déjà en faveur d'une telle augmentation. On voit augmenter de façon constante, lente mais constante, l'incidence de la dépression, dont il faut dire qu'elle touche une personne sur cinq au cours de sa vie. On voit des populations qui autrefois étaient protégées, ou en tout cas indemnes, relativement indemnes de troubles mentaux, que sont les préadolescents, entre 8 et 12 ans, période très calme, à tel point que les psychanalystes appelaient ça la période de latence, c'est-à-dire qu'il ne se passait rien, eh bien, nous les voyons arriver dans les services d'urgence avec des idées suicidaires aujourd'hui. Donc, nous voyons un certain nombre de signaux d'un changement, et je me pose la question du fait que ces signaux soient des signaux, des témoins, des effets de l'hybridation faible que nous connaissons, l'hybridation technologique faible que nous connaissons aujourd'hui avec les écrans avec nos smartphones, en amont de l'hybridation forte dont je parle, qui est celle des interfaces cerveau-machine.
Et vous dites, Raphaël Gaillard, que la dépression est en passe de devenir la première cause de handicap dans le monde.
Oui, on n'en a pas assez conscience. C'est-à-dire que pour une bonne part, c'est pour une bonne raison, c'est-à-dire on soigne de mieux en mieux d'autres maladies. On a fait des progrès aussi dans la dépression, mais pas assez. Et pour une autre, la réalité, c'est que le poids de la dépression est colossal et ça reste encore malheureusement tabou quand ça touche, je le redis, une personne sur cinq au cours de sa vie.
Mais est-ce que les psychiatres que vous êtes sont capables de faire un diagnostic de la santé mentale de l'IA? Est-ce que cette question a un sens? Si je prends simplement ChatGPT, je regarde les textes qui sont produits par cette machine, est-ce qu'on peut faire un diagnostic sur l'état de santé mentale correspondant à l'auteur fictif de ces textes?
Alors c'est une excellente question. Moi j'applique le raisonnement que je viens de vous tenir. ChatGPT c'est une IA construite sur un mode connexionniste, c'est-à-dire en imitant notre cerveau avec des neurones formels, mais c'est en imitant notre cerveau. À imiter notre cerveau, je ne vois pas comment elle pourrait éviter les travers de notre cerveau. Et donc je ne vois pas comment l'IA pourrait éviter de connaître les mêmes problèmes que notre cerveau. Et donc, je guette tout ce qui pourrait ressembler à de la psychopathologie de l'IA aujourd'hui.
On arrive quand même à détecter les copies produites par les étudiants qui, en fait, sont des textes produits par ChatGPT, au fait que ces textes sont ennuyeux et ne contiennent aucune faute d'orthographe.
Certes, mais il y a des choses plus intéressantes que cela. Moi qui utilise beaucoup ChatGPT pour discuter avec ChatGPT, je trouve que c'est intéressant de discuter avec ChatGPT, je suis frappé par ce qui ressemble à mes yeux de psy, à des lapsus, des choses très incongrues. On voit apparaître des choses tout à fait inattendues. Je peux vous en citer une, parce qu'elle est étonnante. Je voulais faire une illustration pour un congrès d'un psychiatre avec une seringue. C'était une présentation sur des enjeux de traitement injectable. Et donc je lui demande de me faire une illustration. L'illustration ne me convient pas, on aurait dit un cardiologue, quelle horreur. Donc je lui demande de me le représenter comme si c'était un Sigmund Freud. Et il me représente quelque chose qui ressemblait plus à un psychiatre. Mais je ne vois pas la seringue. Et donc je lui dis, mais de faire plus grosse la seringue. Et je vois apparaître sur le bureau de ce psychiatre à l'allure de Sigmund Freud, dans un mobilier très victorien, une forme oblongue, couleur chair, au milieu de la table. Et alors évidemment, je m'inquiète, je demande à ChatGPT, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une seringue? Et il me donne la définition d'une seringue exacte, mais toujours est-il que ce qu'il m'avait représenté sur le bureau, c'était, je dois le dire comme ça, un objet phallique. Et je pense que dans le cerveau de ChatGPT, cette requête qui consistait, ces prompts, à lui demander de me représenter un psychiatre ressemblant à Sigmund Freud avec une seringue, bah c'est passé par le rêve de l'injection faite à Irma et ça aboutit à l'idée que c'était un phallus.
Bon, dans votre livre, il y a des recommandations à la fin parce que le diagnostic que vous faites est quand même pas très joyeux et le pronostic pour l'avenir non plus. Mais vous donnez des recommandations, notamment de la lecture. Vous dites « la lecture est un sport qui se pratique à main nue ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut abandonner les écrans, lire sur papier, se concentrer?
Ça veut dire que moi, je ne suis pas du tout contre les écrans et la technologie, vous l'aurez compris, mais simplement, il y a un temps pour tout. Et la technologie, l'hybridation technologique, pour moi, elle vient en écho à notre grande hybridation qui a été celle de l'avènement de l'écriture et la lecture. À l'échelle collective, ça a été quand même une sacrée réussite que d'inventer l'écriture et la lecture. Et donc, à l'échelle individuelle, préparons-nous à l'hybridation technologique, en revivant notre grande hybridation, qui est celle de l'écriture à la lecture. Et ça, c'est très physique, en effet. Ça passe par un rapport très physique à ces objets que sont les livres, par cette lecture, parfois à haute voix, qui nous fait côtoyer les mots, qui nous fait donner forme à ces mots, qui nous fait vivre, en fait, ces histoires, et dans ce rapport très physique au monde.
Vous citez d'ailleurs Proust qui dit, je crois que c'est dans La Prisonnière, « En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même par le lecteur de ce que dit le livre est la preuve de la vérité de celui-ci. »
Ben voilà, quand je vous disais qu'il fallait absolument lire, et d'ailleurs je suis persuadé, le psychiatre que je suis est persuadé qu'il y a dans la littérature beaucoup plus que dans toutes les théories psychologiques.
Raphaël Gaillard, ce serait hélas le mot de la fin, j'ai encore 1000 questions, j'avais prévenu. Mais nous allons écouter maintenant ensemble la chronique d'Alexandre Delbeau qui s'intitule « Avec science ».
Comment les dinosaures théropodes sont-ils devenus géants tout en restant bipèdes? Les théropodes, vous en connaissez plein, vous en verrez même peut-être aujourd'hui. C'est une immense clade d'animaux, donc un très grand groupe qui comprend les oiseaux actuels, mais aussi de gigantesques espèces disparues comme le T-Rex. Et donc, ce qui saute aux yeux chez les théropodes, c'est qu'il y a de tout, des gros et des petits. Si on imagine aisément pour un oiseau de quelques centaines de grammes de tenir sur deux pattes, c'est une question plus mystérieuse pour la mégafaune. Pourquoi les gros théropodes ne sont-ils pas passés sur quatre pattes et comment faisaient-ils pour tenir debout? Romain Pintor est paléontologue, anciennement affilié au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris et au Royal Veterinary College de Londres. Il est le premier auteur de cette étude parue dans Paléobiology.
Les théropodes, donc c'est un groupe de dinosaures qui sont caractérisés par une bipédie exclusive, donc c'est des animaux qui marchent que sur deux pattes. C'est le seul groupe de dinosaures qui a survécu il y a 66 millions d'années. Donc ça, c'est un détail important puisque les oiseaux que nous connaissons actuellement sont des dinosaures théropodes. Et donc, on se retrouve avec un groupe qui va être extrêmement diversifié, donc non pas en termes de locomotion, mais en termes de taille, puisqu'on va avoir des petits dinosaures théropodes de 150 grammes et des grands dinosaures théropodes type Tyrannosaurus rex, par exemple, qui va peser 8 tonnes et donc globalement qui porte le poids d'un éléphant uniquement sur deux pattes. La grosse question, elle va vraiment être centrée autour de la masse, parce que dans le groupe des théropodes, on va avoir donc l'évolution d'une taille gigantesque. Et en fait, cette évolution du gigantisme, ce n'est pas un seul événement unique, mais ça va arriver à plusieurs occurrences de manière complètement isolée. C'est-à-dire qu'on a plus de 10 familles de dinosaures théropodes qui vont indépendamment devenir des géants à partir d'un ancêtre de petite taille.
Il y a donc eu dans l'évolution différentes façons d'atteindre ces tailles et masses énormes. Et pour mieux le comprendre, on peut transposer cela au vol d'oiseaux. Les oiseaux, les chauves-souris et les ptérosaures peuvent tous voler. Pourtant, leurs ailes sont différentes. Donc, ils se sont adaptés différemment au cours de l'évolution pour aboutir à la même fonction. Est-ce le cas pour la bipédie des gros théropodes ? Est-ce que leurs os se sont adaptés différemment pour leur permettre de soutenir ce poids ? Pour répondre à cette question, cette nouvelle étude a eu recours à de la morphométrie géométrique 3D, un terme un peu barbare qui consiste à créer un modèle numérique à partir de fémurs. Et pour ça, il faut des os, un scanner et un ordinateur. Et donc, ce qu'aurait dû faire ce chercheur, c'est parcourir le monde, de musée en musée, de laboratoire en laboratoire, pour scanner toutes les familles de théropodes géants. Mais patatras, pandémie de Covid et confinement, impossible de voyager. La chance qu'il a eue, c'est que d'abord, ces dinos sont populaires. Et donc, beaucoup de leurs fémurs avaient déjà été scannés. Et ensuite, de très nombreux scientifiques ont accepté de collaborer et de partager ces scans, ce qui a permis de regrouper un échantillon de fémurs de 68 espèces de théropodes appartenant à 7 lignées différentes. Et résultat, pour ces animaux bipèdes, il n'y avait qu'une seule façon de s'adapter au gigantisme.
On a découvert que tous les fémurs de ces dinosaures théropodes se sont adaptés exactement de la même manière à une augmentation de la masse. Donc, c'est-à-dire que dans notre échantillon, on a quand même 7 familles dont on a un animal au moins qui va dépasser une tonne de masse corporelle. Donc, vous imaginez déjà porter une tonne en marchant que sur deux pattes. Et plus de 7 reprises, le fémur s'est adapté exactement de la même manière à cette augmentation de masse. Donc, c'est quand même assez fou. Les différentes choses qu'on va voir sur le fémur, globalement, évidemment, le fémur va devenir plus robuste pour pouvoir supporter plus facilement le poids et également mieux gérer les contraintes de force de muscle lorsque la jambe se déplace. On va avoir aussi la migration d'une attache musculaire, donc c'est vraiment une petite crête qui est essentielle d'ailleurs pour reconnaître un dinosaure qui va se situer à l'arrière du fémur. Et donc sur cette crête, on a les muscles qui s'attachent entre la jambe et la queue, donc c'est central dans la locomotion et l'équilibre de ces animaux. Et cette petite attache, en fait, elle va migrer vers le bas de l'os plus l'animal est grand.
C'est ce qui est appelé une convergence évolutive. Toutes les adaptations convergent. La suite de ces travaux, ce sera de continuer à mieux comprendre les caractéristiques anatomiques des 10 000 espèces de théropodes, mais aussi de se servir de ces résultats pour résoudre la locomotion d'autres dinosaures pour lesquels on a souvent du mal à trancher quant à leur bipédie ou leur quadrupédie.
Merci Alexandra, merci à vous à Raphaël Gaillard. Je recommande très chaudement la lecture de votre livre L'Homme augmenté qui vient de paraître chez Grasset. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ludovic Auger et à la réalisation Luc Jean Reynaud.